Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Cours d'honneur saison 4, épisode 4. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ? La bande de Cours d'honneur répond à cette question un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université, un samedi sur deux sur Radio Campus Paris, le magazine d'info et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus, passe ce soir à l'heure américaine.
American carnage stops right here and stops right now.
This is CNN breaking news.
Et comme Kamala Harris a vécu plusieurs années à Montréal, je lui ai demandé au passage si elle parle français.
Madame, do you speak French?
Yep. Un petit peu.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme.
But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment,
you know who's back up in this motherfucker.
Change has come to America.
Voici toutes nos promesses pendant une heure. Nous allons aborder bien sûr la culture américaine.
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight.
Il y aura aussi du love pour les plus chanceux.
I did not have sexual relations with that woman.
Et bien sûr, du style avant tout.
But if time was what you needed just to gain a little perspective.
We were on a break!
Et bien évidemment, j'ai une sacrée équipe pour m'accompagner ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir Lavinia.
Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jackie Kennedy pour la Sorbonne en personne.
Nous avons également Aurélie avec nous. Salut Aurélie, de retour.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Je vais intervenir pour les interviews du coup.
Également à côté de nous, nous avons Alice. Salut Alice, Alice qui est venue presque en touriste ce soir.
Et oui Thomas, le reportage ne s'est pas passé comme prévu, mais je serai là pour les questions, ne vous inquiétez pas.
Je n'en doute pas, Swan est à côté de toi, salut Swan.
Et oui, hello, moi je t'ai préparé un petit édito, un petit coup de gueule pour ce soir vis-à-vis de l'Amérique et une chronique pavée.
On a hâte de l'entendre, bonsoir Maria Florencia.
Bonsoir à tous et à toutes, ce soir je vais vous raconter une histoire d'amour d'un jeune couple d'Américains, d'étudiants de la Sorbonne.
Et enfin, pour terminer le tour de table, bonsoir Chérine.
Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler des lieux parisiens made in America.
Voilà, toutes les promesses de cette équipe incroyable. Tu es ici chez toi, alors installe-toi, prends place. Le décollage est imminent et du haut de l'amphi, au fond des chambres de bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, eh bien on se met dans l'ambiance avec l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Et c'est Swan ce soir qui s'y colle, qui ouvre le bal. Swan, dans le bain de cette élection présidentielle, qu'en est-il de la situation des étudiants ?
Ne se tourne pas seulement vers l'inflation ou l'immobilier comme on peut le voir dans les médias, il concerne aussi et pas qu'un peu les étudiants américains. Donc aux États-Unis, il y a le American Dream qui subsiste, mettant en avant un peu la méritocratie, donc cette conviction que n'importe qui peut atteindre ses objectifs, qu'importe son origine, sa couleur, son sexe, son parcours. Sauf que, en fait, on oublie les différences sociales et financières qui sont plus que présentes, et à défaut de tenir sa promesse, ça vend juste du rêve en fait. C'est juste une illusion qui se veut espoir. Et ce slogan chimère, c'est ce qui a bercé le prolétariat au cours des deux derniers siècles. Sauf qu'aujourd'hui, bah voilà, les revenus ils sont de plus en plus inégaux et les salaires ils stagnent. Et donc le rêve américain il est plus inspirant, il tue les travailleurs, il abat la classe ouvrière et à plus petite échelle il endette les étudiants. Donc aujourd'hui, le prix de cette devise, c'est plus de 40 millions d'étudiants américains qui ont été contraints de recourir aux banques et qui sont endettés. Et même Obama, il a galéré, il a même pas fini de... Enfin, il a fini de rembourser son prêt, mais peu de temps avant de devenir président. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement fédéral, il a beaucoup coupé dans le budget des universités à cause des crises boursières. Et puis en fait, cette diminution des subventions de l'État, ça a été compensé sur le dos des étudiants et de leurs parents. Joe Biden, durant sa campagne en 2020, il avait promis l'annulation d'une partie des prêts fédéraux. Et son gouvernement, en fait, il a déjà effacé près de 170 milliards de dettes pour presque 5 millions de personnes, ce qui est pas mal. Et en fait, si Kamala Harris, elle avait été élue, elle aurait pu continuer de se battre pour annuler les dettes, tandis que Trump, bah, il relègue cette situation au dernier plan. C'est là, en fait, que se dessine le fossé entre Trump et les Américains. Lui, il est issu d'un milieu riche, plus que riche. Il a pu avoir accès à des études par le financement de sa famille, sans passer par des prêts qui sont exorbitants. Il a jamais connu la pauvreté ou ne serait-ce que la réalité financière d'un citoyen américain. Il est incapable de comprendre la situation critique du pays qui veut gouverner. Comment est-ce qu'il pourrait sauver l'économie des USA? Comment il s'en vante? Comment make America great again si on peut pas se préoccuper, si on se préoccupe pas de ceux qui représentent l'avenir du pays, mais qui souffrent d'une précarité dramatique au quotidien? Et le système, il fait que seuls les plus riches ont accès à des études supérieures, ou ceux qui acceptent d'accumuler des dettes monstrueuses. Donc c'est pas normal, c'est dégueulasse qu'ils doivent porter un tel fardeau financier juste pour avoir accès à une meilleure éducation. Et une fois sortis de l'université, les diplômés, ils devraient pouvoir investir leur argent dans une maison, une voiture ou une entreprise. C'est pas censé être ça, le rêve américain.
Le rêve américain qui se décompose petit à petit sous nos yeux. Mais n'oubliez pas que dans la vie, eh bien parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Disons-le tout net, c'est une élection historique à laquelle nous venons d'assister, le plus grand comeback de l'histoire de la démocratie américaine. Donald Trump a réussi une victoire écrasante en remportant plus de la moitié des grands électeurs et le vote populaire. Le retour à la Maison-Blanche du milliardaire suscite beaucoup d'inquiétudes en France. Est-ce que les étudiants de la Sorbonne ont été surpris des résultats? Nous leur avons posé la question.
Ça m'a surtout surpris parce que j'ai vu beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment au niveau des jeunes, pour aller voter pour Kamala Harris, parce que Trump est un président qui va avoir un impact extrêmement négatif sur l'Amérique et sur le monde, hein, finalement, ne serait-ce qu'au niveau de la situation avec Israël. On est sûr qu'il va y avoir un soutien à 100% et un soutien financier également. Donc là, c'est quand même assez catastrophique. Moi, personnellement, ça m'a heurté, notamment parce que Trump est un candidat que je supporte très peu. Il utilise notamment un discours assez chrétien, des termes assez chrétiens, pour justifier sa haine et pour justifier des mobilisations anti-LGBT ou racistes ou discriminatoires. Et ça, j'ai beaucoup de mal à supporter.
Surpris, pas trop, parce qu'il y avait quand même... c'était un peu 50-50, j'ai cru comprendre.
J'étais assez sûre qu'il allait être choisi. Mais après, je pense que c'est question de temps que les gens se rendent compte qu'en fait, ils se sont un peu trompés. Je pense qu'il ne va pas améliorer le pays.
J'étais quand même assez choquée par les résultats, surtout en vue de tout ce qui se passe dans l'état du monde en ce moment, de pouvoir continuer à élire un président aussi, aussi peu concerné par les problèmes mondiaux sur la situation des femmes, sur... Enfin, un président raciste, quoi.
Et vous, autour de la table, comment ça va ce soir? Est-ce que vous avez été surpris ou au contraire, vous vous y attendiez? Chirine?
Un petit peu, mais pas trop, parce que forcément, ils étaient coude à coude. Mais bon, s'ils l'ont élu en 2016, pourquoi pas en 2024? Je suis surprise, mais surtout déçue et inquiète pour l'avenir.
Choquée, déçue, Swan?
Oui, alors choquée, je sais pas, déçue, oui, certainement. Surtout que, en fait, après sa défaite aux élections en novembre 2020, on pensait qu'il allait disparaître et non, il est revenu, il a fait le comeback. Donc voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre, en même temps, si. Donc il y a des bons points, on va essayer de rester positif, mais la majorité de ce pourquoi il a été élu, en fait, ça annonce rien de bon. Donc,
des bons points. T'arrives à positiver, toi, Aurélie, Lavinia, vous arrivez à être optimiste au milieu de tout ça?
Alors, par rapport à la situation climatique, c'est vrai que c'est encore plus inquiétant, donc effectivement, très déçu.
Moi, ce qui me rend plutôt pessimiste par rapport à cette situation, c'est pas seulement le fait que Kamala Harris n'a pas gagné, parce que j'espérais qu'elle allait gagner, qu'elle allait devenir présidente, mais le fait que c'est très polarisé, on n'a pas vraiment de choix. C'est ou bien Trump ou bien Harris. Les autres candidats n'ont même pas la possibilité de s'imposer. Du coup, la plupart se disent « je vais pas voter pour lui, je vais voter l'option moins pire voilà. ». Et du coup, en fait, il n'y a pas de diversité.
Le bipartisme, Maria Florencia, tu le regrettes?
Je suis d'accord, je suis assez d'accord avec Lavinia. Aujourd'hui, je suis vraiment pas contente. Mais en fait, j'aurais pas été contente dans tous les cas, parce que même si c'était Kamala Harris, ça allait être assez catastrophique pour certains sujets qui pour moi sont très importants. Par exemple, la crise climatique, le soutien au peuple palestinien, c'est quelque chose, des sujets qui, waouh. Trump, c'est bien pire sur la question crise climatique, du coup. Mais même Kamala Harris, elle n'a pas vraiment touché, elle n'a pas vraiment pris une position. Et nous, je pense, notre génération s'attendait à plus.
Tu ne te serais pas réjouie, toi aussi, Alice, d'une victoire de Kamala Harris?
Non. Kamala et Trump, je pense que c'est un peu la peste et le choléra, même si Trump, c'est choléra. Mais c'est vrai que j'espérais quand même que ce soit pas Trump qui soit élu aujourd'hui. J'attends pas grand chose en fait d'un président qui considère des faits aussi clairs comme le réchauffement climatique comme un canular. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un petit peu pas de, on va pas dire propagande, mais Kamala, elle joue aussi beaucoup, je pense, sur les minorités, sur tout ça. Et c'est très très bien aussi de prendre ça dans son discours, mais je sais pas quoi dire en fait. Je suis choquée, déçue. Voilà.
En fait, je trouve que Kamala Harris, elle s'est battue. Elle a dit de se battre pour les minorités, mais en fait, elle a fait beaucoup de propagande aux côtés des femmes, aux côtés des minorités. Mais vraiment, s'il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, beaucoup, c'est le fait de dire je suis pour les femmes, je suis pour les minorités, alors que là, il y a un génocide qui pour laquelle elle est pour. Et dans ce génocide, il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui n'ont pas accès à coucher normalement comme on devrait, parce que les hôpitaux sont bombardés. Il y a des femmes qui n'ont pas accès aux serviettes pour ces règles. Genre, c'est vraiment quelque chose, c'est hypocrite, je trouve. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'accord avec moi.
Je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est aussi une tactique politique, parce que là, d'après ce que j'ai vu, d'après une étude que, bah, là, je ne vais pas vous citer de nom précis, désolée pour cela, mais apparemment, il y avait un grand nombre d'électeurs, en majorité hommes pour Donald Trump et femmes pour Kamala Harris. Alors là, bien sûr, on se dit, enfin, lorsqu'on a, on essaie de se démarquer, d'avoir, on va dire, un groupe de citoyens qui peuvent s'identifier à nous et en qui peuvent avoir confiance, c'est sûr qu'elle va dire oui, je suis pour les femmes, mais alors est-ce qu'elle est vraiment? Non, je crois pas. Mais c'est là, vraiment, t'as raison, c'est hypocrite, et je crois que
En fait, il faut juste aller un strat en dessous de la surface et on s'en rend tout de suite compte. Elle ne laissait même pas de le cacher.
Bon, ben voilà, les positions des membres de Cour d'honneur sont prises ce soir. Dans un instant, on va entendre des explications, l'analyse, le décryptage de nos deux invités exceptionnels ce soir de cette émission. Caroline Gorgon, Claire Dutrio, spécialiste de la civilisation américaine, nous rejoignent dans un instant puisque ce soir, dans Cour d'honneur sur Radio Sorbonne et Radio Campus, on parle de la vie étudiante, de la Sorbonne à l'heure américaine. On vous emmène outre-Atlantique, au pays des cow-boys, des grosses bagnoles, des motos et des routes interminables dans l'ouest américain avec Creedence Clearwater Revival, Fortunate Sound dans Cour d'honneur. Fortunate Son dans Cour d'honneur. Creedence Clearwater Revival, ça c'est le son des États-Unis. Émission exceptionnelle ce soir, dédiée à la présidentielle américaine, accompagnée de deux enseignantes spécialistes justement de la civilisation américaine.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
He created a man who became a monster.
Et oui Thomas, ce soir nous accueillons dans le studio de Rabot Sorbonne Caroline Gorgon, professeure associée d'American Studies à Sorbonne Université. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Claire Dutrio, professeure d'histoire et de culture des États-Unis à Sorbonne Université. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc première question, qu'est-ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis ?
Eh bien, je crois qu'on a assisté à un raz-de-marée rouge. Hein. Tous les sondages donnaient une élection très serrée. On avait entendu que peut-être il y aurait des recomptages de votes pendant plusieurs jours. Et en fait, la victoire de Trump a été très, très nette. Et je pense que ça a surpris beaucoup de monde.
Oui, oui. Je pense qu'on ne s'est pas attendu forcément à une victoire si nette, à ce qu'il emporte tous les swing states d'un seul coup et qu'à 6h du mat, l'heure de l'horaire de la côte est, ça soit fini en fait et que ça soit réglé pour lui en fait. Et je pense qu'il y a un certain nombre de leçons que les démocrates vont devoir en tirer. De leur perte et du comeback en fait de Donald Trump. Et je pense que ce qu'on voit surtout, c'est que Trump n'est plus une aberration. Enfin, en 2016, ça avait sa candidature, sa victoire, surpris beaucoup de personnes. Et là, cette fois-ci, en fait, il a fait un comeback et les citoyens américains ont fait un choix délibéré. En fait, ce n'est pas une exception, c'était une volonté.
Alors, Caroline Gorgon, est-ce que vous avez été surprise du fait que Trump ait remporté non seulement
le vote des grands électeurs, mais aussi le vote populaire?
Oui. Je vais être honnête, j'ai été surprise, oui. J'ai été surprise, je savais que ça allait être très serré, mais au final, je pense que moi-même, j'ai dû être un petit peu trop emportée par l'optimisme suite à la nomination de Kamala Harris. Comme la situation cet été, elle semblait tellement désespérante. Après le débat entre Biden et Trump, on pensait qu'il y aurait une ouverture, on pensait qu'il y aurait une possibilité que les démocrates l'emportent à nouveau. Mais au final, non. On savait que c'était serré, mais ouais, quand ça se passe, on finit par être... oui, pas forcément surpris, mais ouais, déçu.
J'ai une question. Quelles sont les premières conséquences, selon vous, pour les relations internationales après la victoire de Donald Trump ?
Alors, je pense que la première conséquence, ça va être l'Ukraine, clairement. Parce que Donald Trump a dit qu'il voulait terminer cette guerre en un jour. On a vu que Poutine s'est réjoui de cette élection. Donc il y en a qui ne sont pas déçus, clairement. Voilà, donc je pense que sur le plan de l'Ukraine, on va voir des changements. Netanyahou s'est réjoui également. Donc on va voir sûrement encore plus d'aide militaire accordée à Israël. Et après, les conséquences, en fait, elles vont être économiques, à mon avis. C'est-à-dire une montée en flèche du protectionnisme, parce que Trump a également promis de taxer très fortement tous les produits importés. Donc ça va nous impacter, notamment en France avec le vin français. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu éloigné des préoccupations, mais en fait ça va nous impacter économiquement. Ça veut dire que les prix vont monter, alors que nous sommes déjà aussi, comme les Américains, en train de subir de l'inflation.
Est-ce que vous considérez que ça peut être vu comme une opportunité justement pour les Européens de peut-être se renforcer, ou on va au contraire devenir effectivement beaucoup plus fragile?
Ça dépend en fait de comment l'Europe se remobilise. À mon avis, la dernière fois en fait que ça s'est passé et que Trump a menacé de se retirer de l'OTAN, finalement les Européens ont plus ou moins accédé à ses demandes parce qu'ils ont investi plus d'argent dans l'OTAN. Il n'y a pas eu vraiment de réveil de l'Europe. Donc, si on est pessimiste, voilà, je dirais que non, ça va être très difficile de se remobiliser, en fait. Il faudrait vraiment qu'il y ait une unité de l'Europe qui n'existe pas actuellement.
J'ai une petite question pour vous, Caroline Gorgen. Je sais que vous faites de la recherche dans l'histoire photographique de la Californie et de l'Amérique d'Ouest. Selon vous, en quoi la photographie peut-elle jouer un rôle dans la perception des élections par le public?
Je pense que la photographie, les médias et la culture visuelle en général jouent un rôle crucial en fait dans les campagnes électorales. On le voit en fait dès le début du 19e siècle, dès le milieu du 19e siècle, lorsque les premières campagnes présidentielles sont documentées par la photographie, à commencer avec Abraham Lincoln dans les années 1860, et Lincoln qui dit très clairement que c'est son portrait qui l'avait aidé en fait à devenir président, parce que son portrait était une des premières représentations visuelles d'un candidat à la présidentielle à circuler dans les magazines. Avant, les Américains, ils ne savaient pas forcément à quoi ressemblaient les candidats à l'élection présidentielle. Et je pense que depuis, les images jouent un rôle crucial dans la politique américaine. Et on l'a vu après l'attentat cet été sur Trump en Philadelphie, ces images de Trump qui ont circulé avec le bras levé, le sang à travers son visage, les traces de sang, sa bouche qui a formé des mots fight, fight, fight. En fait, cette image a été reproduite de suite et reproduite sur différents supports, que ce soit sur Internet, dans les médias plus traditionnels, dans les journaux, mais aussi sur des t-shirts, sur des mugs. Ouais. Le visuel est crucial, je pense, pour comprendre la politique américaine.
Claire, j'ai une petite question pour vous, pour en revenir à cette photo de Donald Trump qui lève le bras un petit peu comme un résistant. Vous avez écrit un article sur la représentation de l'esclavage et l'esthétique de la résistance dans Sankofa. Cet article est illustré dès le titre par cet extrait. « Esprit des morts, relève-toi et revendique notre histoire ». Peut-on considérer que le parti de Donald Trump s'est réapproprié cette esthétique de résistance des opprimés, notamment avec des discours comme « Make America Great Again » Est-ce qu'un parallèle est envisageable?
Oui, tout à fait. En fait, ici, on a un retournement de la situation où, dans Sankofa, en fait, c'est la question de la résistance à ceux qui nous esclavagisent. On a en fait tout un discours parmi les électeurs de Trump qui sont les blancs oubliés en fait de Washington, de la politique fédérale. Donc oui, en fait, Trump a joué sur ça, sur cette résistance. Donc, résistance des blancs qui disent nous sommes toujours là. Également une résistance en fait à ce qu'ils appellent l'idéologie du grand gouvernement fédéral. Donc voilà, nous on résiste parce que on est pour les droits des États, parce que on ne croit pas dans ce que disent les grands médias traditionnels. On va résister à ce qu'ils appellent l'idéologie dominante en fait. Donc en votant pour Trump, nous sommes des résistants. Nous sommes les rebelles et en fait c'est vous ceux qui votez pour le Parti démocrate qui êtes esclaves de toute cette idéologie.
Je profite pour vous demander encore, Caroline Gorgan, comment avez-vous observé l'évolution des images politiques pendant le XXe siècle jusqu'à maintenant avec les médias numériques?
Il faudrait que je réfléchisse un moment à cette question. C'est une très bonne question. Moi, je pense que ce à quoi on a surtout assisté, c'est une multiplication des images, c'est une prolifération des images politiques. Et on a surtout vu, je pense, avec cette prolifération des images, des usages très divers, en fait. Je pense notamment à la Grande Dépression pendant les années 1930, où le gouvernement a demandé aux artistes, a demandé aux photographes de documenter ce qui se passe dans les campagnes, ce qui se passe dans les parties rurales des États-Unis pour créer une image de l'Amérique qui souffre, mais qui se relève. Et c'est cette portée idéologique des images qui a commencé avec la photographie au 19e siècle, en fait, se poursuit à travers le 20e siècle et la puissance des images devient de plus en plus instrumentalisée. À partir des années 60, il va y avoir un photographe officiel à la Maison Blanche, donc la photographie va être de plus en plus présente comme outil politique à diverses fins politiques, comme on l'a vu.
Vous restez avec nous, Caroline Gorgan, bien sûr, Claire du Trio, tous les auditeurs de Cours d'honneur. On va faire une petite pause dans cette interview, on revient dans un instant. Petite pause pour faire le tour des bons plans américains de Paris.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table !
À défaut de pouvoir prendre son billet pour Manhattan, Chirine vous fait voyager à domicile en vous partageant ses meilleures adresses parisiennes made in America. De quoi vivre le rêve américain sans visa et surtout sans se ruiner.
Et oui, car qui n'a jamais rêvé de manger dans les fameux dinners, comme on en voit dans pratiquement toute la cinématographie des années 80. Ces restaurants américains qui proposent des brunchs avec à la carte de bons hot dogs, riches en matières grasses et en produits édulcorés. Interdit dans l'Union européenne. Comment ne pas citer les merveilleux milkshakes goût banane, fraise ou encore vanille. Et enfin, l'inévitable, le cultissime, le majestueux burger américain, splendide invention allemande. Pour profiter de tout ça, je vous ai concocté un répertoire culinaire qui vous donnera l'impression d'être un habitant de l'opulent Manhattan ou du fin fond du Michigan. Vous n'aurez évidemment pas le droit aux gentils millions d'Elon Musk, ni à une maison secondaire dans les Hamptons. En revanche, vous aurez le bide bien rempli et le sourire aux lèvres. Alors, le first bon plan, pas besoin d'être nul en géographie pour profiter de la riche et raffinée gastronomie états-unienne. Direction le Quartier Latin, au restaurant Breakfast in America, situé rue des Écoles, en plus, à deux pas de la fac. Avec un menu brunch à 23 euros par personne, ce resto à la déco rétro vous offre un peu tout le paysage gustatif américain, pancakes, avocado, toast, bacon. Et je m'arrête là parce que la vigne a une petite goutte là sur la bouche. Donc c'est tout un microcosme en fait américain qui vous attend sur fond de disco des années 70, les fesses posées sur des banquettes rouges en face d'un comptoir bien rempli. Et petit fun fact, une scène de la série Emily in Paris y a été tournée, donc le resto est approuvé à l'international. Si vous voulez fêter la victoire de Kamala Harris ou alors oublier l'énorme défaite de Donald Trump, je précise que j'ai écrit cette chronique il y a 3 jours, je suis optimiste, oui. Rendez-vous au Harris Bar, un bar jadis démonté à Manhattan, puis remonté à Paris. Ce qui est fun, c'est qu'en période électorale, le bar organise son propre vote. Donc imaginez l'ambiance après le dépouillement. Vous avez également droit à une carte bien épaisse avec 300 whisky et plus de 400 cocktails, le tout servi par des serveurs anglophones. Alors encore une fois, pas besoin de passer son certificat Cambridge, il vous suffit juste de prendre la ligne 3 jusqu'à Opéra. Le sourire démocrate aux lèvres ou l'alarme républicaine à l'œil. Les adeptes de littérature connaissent sûrement Shakespeare and Company, une librairie anglophone emblématique de la capitale. Et non loin de celle-ci se trouve la plus grande librairie de langue anglaise d'Europe, The American Library. Une institution qui loge plus de 100 000 ouvrages et qui a même accueilli, au cours de sa vie, le célèbre prix Nobel de littérature Ernest Hemingway. Vous pourrez flâner dans les rayons en vous arrêtant au rayon K pour votre dose de suspense quotidienne grâce à Stephen King, faire un tour au rayon L pour une dose d'aventure de Jack London qui saura amplement vous le transmettre. N'hésitez pas non plus à faire un tour au rayon P pour croiser la talentueuse Sylvia Platt. En revanche, toute l'équipe de Cours d'honneur vous déconseille le rayon T. Vous y croiserez malencontreusement l'autobiographie de Donald Trump qui risque de vous causer une grosse nausée. Donc après un resto, un bar et une librairie, le dernier bon plan n'est autre qu'un stand de tir. Bien sûr faux. Restons dans cette belle bulle du rêve américain. Munissez-vous de chaussures ultra résistantes et travaillez vos biceps. Le bowling s'invite à Paris. Donc niché dans une rue que vous connaissez tous sûrement, hein, le bowling Mouffetard vous donne l'occasion de mettre des strikes pour seulement 8 euros. Vous pourrez également vous sentir comme un rital new-yorkais des années 90, chevalière aux doigts et cigare en bouche en profitant de leur jolie table de billard. Et voilà, donc le rêve américain is over. J'espère qu'après tout ça, vous arriverez enfin à aligner 2 mots en anglais et à placer 3 villes françaises en Italie. Voilà, merci.
Un mot pour terminer, Caroline Gorgon, Claire du Trio, littérature américaine, vous êtes plutôt Art of the Deal ou Complexe de Portnoy ou si vous deviez choisir un roman américain? Le bûcher des vanités, James Ellroy.
Oh là là.
On est avec des littéraires autour de la table, elles aiment bien la littérature américaine.
Le dernier grand classique que j'ai lu, c'est Fahrenheit 451.
Voilà.
Jean Will. Et voilà, en fait, je m'étais dit, j'ai jamais lu ce livre, c'est un grand classique. Je vais le lire et j'ai été sidérée, en fait, par l'actualité de ce livre, en fait. Et en fait, ça résonne très tristement avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que voilà, il s'agit de brûler des livres, en fait, d'aveuglément, en fait, anéantir la culture. Et aujourd'hui, aux États-Unis, alors on en a beaucoup parlé ces dernières années, peut-être un petit peu moins cette année, mais il y a tout un mouvement de censure des romans dans les bibliothèques des écoles et notamment des romans comme 1984 ou des auteurs africaines-américaines comme Toni Morrison. Voilà. Et donc, si aujourd'hui je devais choisir un roman américain, ça serait celui-là.
Bon, pour ne pas que nos éditeurs soient complètement désespérés, rappelons que l'intrigue met en scène justement un homme qui a des regrets, un pompier, je crois, qui a des regrets en brûlant
donc
un livre et qu'il dissimule. Vous, Caroline Gorgon?
Je pense que ouais, je vais suivre en partie les conseils de Claire du Trio. Il y a un petit peu de overlap dans nos suggestions et j'allais recommander évidemment Toni Morrison. Les romans de Toni Morrison, enfin, choisissez ce que vous voulez, mais l'expérience de lecture va faire quelque chose en vous, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je me souviens de ma première lecture de The Bluest Eye, quand moi-même j'étais en licence 2, dans mon cours de littérature américaine, et ça m'avait bouleversée. Et Toni Morrison, qui est décédée en 2019, vraiment une très très grande dame de la littérature américaine, et enfin de la littérature américaine tout court en fait, pas juste de la littérature africaine-américaine avec ce label, mais vraiment un tremblement de terre culturel
elle
du XXe siècle.
Ne briguera pas le Nobel de littérature à 18h34 sur Radio Campus Paris. Taylor Swift, la girl next door ultime, a sorti son album Midnight, c'était en 2022, un album à une connotation plus intime que ses albums précédents. Taylor Swift qui nous chante ce soir dans Cours d'honneur, anti-héros. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Taylor Swift, anti-héros, l'album Midnight, paru en 2022 sur Cours d'honneur dans cette émission spéciale dédiée à la présidentielle américaine. Dans un instant, nous retrouvons nos deux invités qui sont toujours avec nous en plateau. Mais tout d'abord, eh bien sur Radio Sorbonne, c'est l'heure du pavé de culture, les histoires insoupçonnables et les anecdotes historiques sur la Sorbonne. Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
Et ce soir, eh bien, c'est Swan qui va nous raconter il y a 115 ans ce qui se tenait à la Sorbonne. Un homme auprès de qui Trump aurait pu aimerait figurer sur le Mont Rushmore, Theodore Roosevelt. Il a donné de très nombreux discours au cours de sa carrière, mais aucun n'a eu plus d'impact que celui qu'il a prononcé dans l'amphi Richelieu, oui, juste derrière nous, intitulé « Le citoyen d'une république ».
Des personnalités publiques américaines qui sont adressées à la Sorbonne, il y en a des tas, mais d'hommes d'État, il n'y en a pas tant que ça. Le 23 avril 1910, l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt, a tenu le discours qui résonne encore aujourd'hui dans les couloirs de la Sorbonne. En homme du Nouveau Monde, c'est à la France qu'il s'adresse, mais également à l'Europe. Ce vieux monde, c'est pas le monde entier. Le sujet de la conférence est pourtant totalement moderne, pour l'époque j'entends, décrivant ce que signifie participer à cette étrange expérience appelée la démocratie. Alors, on va s'aider du récit d'Alain Fournier qui apparaît dans la Nouvelle République française peu après. On peut s'imaginer le discours du très inspirant Roosevelt, un peu comme si on était. Alors, à cette époque, Alain Fournier, il était un jeune journaliste installé dans l'amphithéâtre Richelieu de notre si connue Sorbonne. Et ce jour-là, notre université était pavoisée aux couleurs françaises et américaines, c'est-à-dire bleu, rouge et blanc, hein, pas plus compliqué. Et dans le milieu de la foule, il observe le président américain. Alors, celui-ci, justement, lorsqu'il se dirige au milieu de l'estrade, il est acclamé par la foule en délire par ses fans. Donc, c'est en fait le tout Paris intellectuel et politique de l'époque. Et là, lorsqu'il s'installe à son fauteuil, ce grand homme des lettres, ancien président, s'apprête à scander ce qui aura le discours intemporel qui résonne encore aujourd'hui. Et en fait, pour ça, rien de mieux que déboucher une bouteille, ce qu'il s'empresse de faire. Donc voilà, t'es pas en tort, Théodore, nous aussi, on priorise l'alcool à la parole.
Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. Oui, on boit du vin, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet.
Comme l'homme du Nouveau Monde, il s'adresse à son public, mais surtout à chacun d'eux, pointe des doigts par-ci par-là, regarde ceux de devant et ceux du fond qu'on ne voit pas. Bref, il est éloquent et en ayant à peine à parler. Il tient une gestuelle brusque, guidant sa voix par ses bras, mimant presque. Et en parlant de plus en plus fort et de plus en plus de passion, Roosevelt agite son carnet au-dessus de lui. Apparemment, il n'avait pas besoin de notes et il parle pendant près d'une heure. Si j'avais été là, je ne sais pas si j'aurais tout suivi parce que c'est sacrément long, mais il y a un passage marquant qu'on peut encore intégrer à notre vie actuelle. Il parle d'un homme dans l'arène, « The man in the arena » pour les bilingues. Face aux étudiants saisis et captivés, il prend la peine de leur inculquer la vie, rien que ça.
Et si nous parlions d'abord de la France ?
Ce Big Bang politique auquel j'aspire.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Commence par mettre en opposition deux catégories d'individus, les acteurs de la vie face aux spectateurs, donc les hommes dans l'arène face au public, les critiqués aux critiqueurs. En fait, Roosevelt ne dénigre pas tellement la critique en tant que telle, puisque lorsqu'on l'utilise correctement, elle est plus que nécessaire, elle est salutaire. Les critiques sont ceux qui ont l'esprit dépréciatif sur tous et surtout, mais surtout pas sur eux-mêmes. Et c'est pas à eux que revient le mérite, on va pas les féliciter pour leurs reproches clairvoyantes. Et l'honneur revient aux courageux, en fait, à ceux qui osent échouer pour peut-être réussir, ceux qui n'abandonnent pas malgré les erreurs, et il le dit lui-même.
Theodore Roosevelt once said, the credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself in a worthy cause, who at best, if he wins, knows the thrills of high achievement, and if he fails, at least fails while daring greatly. So that his place shall never be.
Donc voilà, on pourrait presque en pleurer. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, il dit qu'en gros, il faut salir pour se nettoyer, que le mérite ne revient qu'à ceux qui sont dans l'arène. Il encourage l'audace et l'engagement, il valorise la dignité dans l'effort, même en cas d'échec. Roosevelt, il estime que le progrès vient de ceux qui, malgré les erreurs et les imperfections, osent entreprendre et font avancer la société. Et il dirait que c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Son speech, il reflète l'esprit pionnier de la culture américaine, celui d'une jeune nation dont le citoyen est self-made. On reparle ici de la méritocratie et du vouloir ses pouvoirs, inscrits dans l'intellect américain. Ses propos incarnent les reflets du nouveau monde sur l'ancien. Il y a donc deux types de personnes que pointe Roosevelt dans son public, ceux sur leur terrain et ceux dans les gradins. Les spectateurs se qualifient supérieurs en critiquant ce qu'ils voient, tout en n'allant surtout pas essayer à leur tour. Et donc je pense qu'en tant qu'étudiant à la Sorbonne, ceux à qui Teddy Roosevelt s'adressait directement finalement, on devrait tous rester sur le terrain, on devrait tous se salir, plutôt que de ne connaître ni défaite ni victoire.
Vous êtes bien sur Cours d'honneur, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, Radio Sorbonne Université. Nous sommes ensemble pour cette émission spéciale dédiée à la présidentielle américaine avec nos deux invités que nous retrouvons ce soir, nos deux invités spécialistes de la culture américaine.
Oui, oui, la petite instant, voulez-vous ?
Il faut trouver la voie.
Et oui, Thomas, nous sommes toujours avec Caroline Gorgen, professeure associée d'American Studies à Sorbonne Université, et Claire Dutriot, professeure d'histoire et de culture des États-Unis à la Sorbonne également. Et maintenant, quelle est la suite du protocole américain ?
Le vote des grands électeurs, donc ça va être en décembre. Une fois ce vote officiellement fait, parce que Donald Trump a obtenu une majorité de grands électeurs, il sera inauguré en janvier. Donc ça c'est la suite du protocole.
Je pense qu'il y a un moment entre le moment où les grands électeurs vont certifier leur vote le 17 décembre et l'inauguration le 20 janvier, qui est le fameux 6 janvier, où en fait les votes des grands électeurs sont certifiés par le Congrès. Oui. Et on se souvient toutes et tous du 6 janvier 2021, évidemment. Et l'année prochaine, ça sera à la même date, le 6 janvier 2025, le moment où le vote est finalisé au Congrès. Oui.
Et justement, Donald Trump, il paraissait beaucoup plus apaisé dans son discours de victoire, peut-être rassuré par rapport à ses meetings. Il a dit qu'il allait cesser les divisions. Est-ce que pour vous, c'est possible de réconcilier l'Amérique ?
Moi, je pense que non. Pas après avoir fait une campagne aussi polarisante et des résultats aussi diamétralement opposés, en fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit que les hommes ont voté en majorité pour Trump, alors que les femmes ont voté pour Kamala Harris. On a un vote blanc d'un côté, un vote de minorité de l'autre. Et surtout, en fait, on a eu vraiment... ça a été quand même une campagne très violente. Et à mon sens, beaucoup plus violente que celle qu'avait faite Trump en 2016. On a quand même eu une misogynie qui s'est exprimée absolument sans filtre. Une parole maintenant acceptée, assumée, qui se diffuse partout. Donc ça me semble vraiment difficile de réconcilier une Amérique qui est aussi fracturée.
Justement, vous parlez de misogynie. Donald Trump a gagné 2% de vote féminin depuis 2016, pour un total de 44%. Comment vous expliquez cela, alors qu'il a quand même une politique assez répressive en matière d'avortement et des droits des femmes, en fait, tout court ?
Peut-être que Caroline voudra élaborer sur la question. Moi, je pense qu'on oublie qu'il y a toute une forme de féminisme conservateur aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de féministes qui, dans ce mouvement conservateur, qui sont contre l'avortement. Il faut se rappeler, par exemple, qu'en Alabama, avant même que l'arrêt Roe v. Wade soit défait, c'est une gouverneure femme donc, qui avait signé les restrictions les plus drastiques en fait, sur l'avortement en Alabama. Donc on a ce courant de féminisme conservateur. Et il ne faut pas oublier aussi que tout l'aspect de l'économie, en fait, il est primordial pour beaucoup d'Américains. Quand on les interroge, en fait, c'est vraiment le sujet qui leur tient le plus à cœur. C'est le prix du lait, le prix des œufs, le prix de l'essence. Et en fait, c'est leur quotidien. Donc, voilà.
Ouais, je partage entièrement cette impression-là. Et juste, je rajouterais peut-être une chose sur la question de l'avortement.
Donald Trump a quand même été extrêmement stratégique sur la question. Il a su s'écarter les éléments, se tenir à l'écart en fait des éléments les plus radicaux de son parti. Il a su naviguer ça sans jamais donner une réponse concrète sur ce qu'il allait faire en la matière. Il a su rester très très vague, même quand les journalistes l'ont bombardé de questions. Il a jamais donné une réponse concrète. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent ça va pas être si grave en fait, mais on oublie la législation au niveau des États, en fait, parce que ça se joue au niveau de chaque État. Il va y avoir des déserts médicaux, tout simplement, pour les femmes. Et je pense que l'autre chose que je dirais là-dessus, c'est la question de la représentation, en fait. Je pense que là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est un peu vraiment dans l'ère post-Obama, où les Américains ne votent pas forcément selon les représentations, en fait. S'il y a une femme qui se présente à la présidentielle, ça ne veut pas dire que les femmes vont voter pour. Tout comme, comme Donald Trump, il a gagné là, les voix de plus en plus d'électeurs hispaniques, d'électeurs africains-américains, alors que, on connaît très bien son discours raciste vis-à-vis de ces groupes, mais en fait, il continue à gagner en ampleur.
Claire, j'avais une question pour vous, parce que vous avez étudié le cinéma hollywoodien. Comment le cinéma a-t-il pu jouer un rôle dans cette élection ? La production cinématographique est-elle un reflet de la société ou un outil au service d'un dessin politique ? Par exemple, est-ce que la représentation du racisme au cinéma a participé à l'émergence de Donald Trump, ou est-ce que c'est Donald Trump, à travers tout un discours très décomplexé, qui a accéléré, libéré, déculpabilisé peut-être la parole publique raciste aux États-Unis ?
Alors, je pense que c'est plutôt du côté de Donald Trump qu'il va falloir voir le fait que la parole raciste s'est décomplexée, parce que Hollywood, c'est vraiment un bastion démocrate. Donc on a vraiment à Hollywood en fait ce microcosme de réalisateurs, producteurs, scénaristes, acteurs qui votent démocrate. Il faut savoir que les Obama, une fois la présidence achevée, en fait, ont investi massivement dans les studios et notamment dans Netflix pour avoir des productions qui soit plus en phase en fait avec l'affirmation des droits des minorités, des droits des femmes, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on a sur les plateformes beaucoup plus de contenu comme cela. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme à Hollywood, qu'il n'y a pas de sexisme à Hollywood. Soyons bien clairs, voilà. Mais c'est quand même une industrie qui vote plutôt du côté démocrate. Donc, à mon sens, je dirais que... Alors, après, j'ai pas étudié exactement ce que dit Donald Trump sur Hollywood, mais il va plutôt s'en distancier, à mon avis. Et là, il est vraiment parti pour s'appuyer plutôt sur la tech, donc les entreprises de la Silicon Valley. On voit que Elon Musk, en fait, a joué un rôle énorme, en fait. Donc, lui, en fait, ses alliés. C'est plutôt cette partie-là de la Californie, je dirais.
Et quel film ou série, à votre avis, ont le plus marqué la perception du public sur les élections et la politique américaine ?
Oula. C'est difficile à dire. Je dirais que... mais après, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce qu'il faudrait interroger ceux qui ont regardé, en fait. Mais c'est vrai que, par exemple, House of Cards, ça a été quand même très regardé. Mais après, c'est aussi une certaine partie de la population qui regarde ça. Je ne sais pas, en fait, si les séries jouent véritablement un rôle. Je dirais en fait que dans les élections, finalement, c'est plutôt les chaînes d'information comme Fox News ou les réseaux sociaux, plutôt que les séries ou les films.
Est-ce qu'il y a des films, selon vous, qui vous nous conseillez de regarder à propos, qui se rapprochent un peu de la politique, pour l'expliquer un peu plus, la politique américaine?
Alors, je recommanderais de voir Lincoln de Spielberg, avec évidemment un petit peu de réserve, hein, parce que ça reste du cinéma hollywoodien, mais tout de même, parce qu'il me semble qu'on voit bien le jeu politique, ce que cela requiert en fait de pression, de négociation pour arriver en fait à obtenir quelque chose en politique. Donc je conseille Oren Lincoln. En fait.
Et toujours pour rebondir sur le cinéma hollywoodien, vous avez travaillé sur la censure. Est-ce que justement la censure a contribué, selon vous, à faire pencher la balance dans les États en faveur de Kamala, de Donald Trump?
Alors après, j'ai pas vraiment étudié ça en détail, mais je dirais que la forme de censure actuelle, c'est vraiment la désinformation. Donc c'est pas vraiment le fait de réduire au silence comme la censure a pu être, mais plutôt de désigner systématiquement des informations comme étant fausses et d'autres comme étant vraies, alors qu'elles ne sont pas sourcées, voilà. Et je dirais qu'en fait, ça a été ça, la forme de censure, et on l'a vu avec les deepfakes, avec toutes ces bandes-annonces, enfin, pas bandes-annonces, mais des vidéos de campagne, campaign videos. Voilà, par exemple, là, tout à l'heure, je lisais, il y a, en fait, le parti républicain, enfin, la campagne républicaine a sorti une vidéo sur les femmes transgenres dans le sport, en prenant des images d'une femme qui, effectivement, voilà, était transgenre et avait participé dans l'équipe féminine de basket, il me semble. Mais cette image, elle datait des années 90, quoi. Donc ça n'avait plus rien à voir, en fait, avec les années 2020, mais elle est utilisée dans cette vidéo de campagne pour dire voilà ce qui vous attend si vous élisez Kamala Harris, voilà. Enfin, et donc, en fait, pour moi, il y a... C'est ça, la censure actuelle aux États-Unis, c'est toute cette désinformation. C'est un tox qui est assez permanente.
Caroline Gorgen, pensez-vous que les représentations photographiques des élections tendent à refléter ou à marginaliser certaines voix de la société américaine?
Juste pour préciser, qu'est-ce que vous entendez exactement par les représentations photographiques des élections?
Bonne question. En fait, j'essaie de m'expliquer. Non, j'essaie d'expliquer, en fait, par rapport aux campagnes électorales. Est-ce que on voit les minorités? Est-ce qu'on voit moins les minorités? Est-ce qu'il y a une stratégie en ça?
Je pense qu'il y a une stratégie médiatique qui va dépendre vraiment des deux parties, en fait, en fonction des représentations visuelles qu'ils vont employer. Ce qu'on voit du côté démocrate, c'est un panorama multiethnique, de personnes tirées de diverses identités qui prennent toute la place dans les représentations visuelles pour montrer l'inclusivité du Parti démocrate et l'inclusivité que le Parti démocrate souhaiterait représenter dans l'Amérique du Nord. Et c'est exactement ça ce que les républicains reprochent le plus souvent aux démocrates, en disant que ce serait cette image multiraciale qui est censée être meilleur, en fait, qui est censé être supérieur par rapport à l'ancienne Amérique dont ils sont nostalgiques pour la plupart. Il y a une certaine manière de... Enfin, les républicains ont une façon de ridiculiser, en fait, le changement démographique aux États-Unis. Ils ont ridiculisé le fait que Kamala Harris soit... issue d'une famille d'immigration qui inclut plusieurs ethnies et races, on emploie ces termes aux États-Unis. Et c'est, enfin, je pense que c'est, pour eux, c'était un moyen assez puissant pour la décrédibiliser et pour essayer de se faire entendre, comme le disait Claire, en fait, en présentant d'une manière faussée, en fait, les identités, les Américains. Je ne sais pas si c'est très clair, mais non, c'est...
On peut dire que les républicains, ils ont la mémoire un peu courte au niveau de l'histoire aussi.
Oui, absolument, absolument. Et puis, je pense que, mais je pense que c'est peut-être aussi vrai pour le, pour d'une certaine manière pour le public américain au sens large. Enfin, il y a un certain cette idée de nostalgie que le parti républicain essaye de renvoyer est quelque chose qui est extrêmement attirant pour une grande partie des Américains.
Et maintenant, on a une dernière question pour vous, notre question phare. Que représente la Sorbonne pour vous?
Bien pour moi justement la Sorbonne c'est une grande diversité, une grande diversité de sites déjà, ce qui m'a beaucoup marquée en fait en tant que, qu'ancienne étudiante d'autres universités, voilà, c'est le fait de découvrir tant de sites, diversité d'étudiants. En fait, j'enseigne en langue étrangère appliquée et c'est vraiment multiculturel. On entend parler des langues diverses en permanence. Quand on se promène dans Malesherbes, voilà, on peut entendre de l'italien, du portugais. Voilà. Et pour moi, la Sorbonne, c'est tout ça. Voilà. Caroline.
Oui, entièrement d'accord avec toi. Pour moi, la Sorbonne, c'est... Ouais, je trouve que c'est un environnement inspirant. Je peux pas le dire autrement. C'est très cliché ce que je vais dire, mais enfin j'ai enseigné sur différents campus, j'ai enseigné devant des publics divers, mais en fait ce qui me plaît à la Sorbonne, enfin c'est l'environnement inspirant et surtout enfin ce qui fait ça, c'est les étudiants aussi. C'est les étudiants qui font ça de la première année jusqu'en master, enfin. On en parle, mais on est bluffé. Enfin, c'est vraiment, c'est extrêmement enrichissant pour nous aussi, parce que c'est ça ce qui fait aussi la richesse de nos travaux de recherche, de pouvoir échanger avec un public aussi divers avec des idées qui parfois viennent aussi challenger un peu ce que nous on pourrait penser.
Merci beaucoup Caroline Gorgen d'être venue dans Cours d'honneur ce soir avec nous. Je
Merci
rappelle,
à vous.
Vous êtes professeure associée d'American Studies à Sorbonne Université. Je signale votre prochaine monographie, The California Camera Club Collective Wow Vision in the Making of the American West, aux presses de l'Université d'Oklahoma en 2025. Et merci aussi à vous Claire Dutrio, professeur d'histoire et de culture des États-Unis à la Sorbonne Université.
Vous êtes bien dans Cours d'honneur à l'heure américaine avec le tube des années 2000. Je parle bien évidemment d'Eminem, Lose Yourself sur Cours d'honneur.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king
A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. And they moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose his old partner, but the beat goes on. Da-da-dum, da-dum. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you but this trail has got to go. I cannot grow old and sail. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Ça, ça fait plaisir aux garçons des années 90 que je suis. Lose Yourself, Eminem dans son film 8 Mile. C'est les États-Unis également, les États-Unis de la Rust Belt qui n'ont pas résisté à la vague rouge qui a déferlé sur les États-Unis avec la victoire de Donald Trump. On approche tranquillement de la fin de l'émission. Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ? On répond à cette question un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne, un samedi sur deux sur Radio Campus. On raconte la vie des étudiants, des personnages illustres de la Sorbonne. Peut-être vous, bientôt. C'est l'heure du Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Le Sorbonne en personne, à chaque épisode, on vous dresse le portrait d'un personnage illustre de la Sorbonne lors d'une émission consacrée comme ce soir aux États-Unis avec eh bien, ces résultats que nous connaissons désormais. Comment ne pourrait-on pas parler des résultats de l'élection présidentielle et surtout comment ne pourrait-on pas parler de Jackie Kennedy ? Lavinia va à présent nous dresser le portrait de cette First Lady qui a marqué les esprits autant que son mari ainsi que son parcours qui l'y a mené.
S'imaginer Jackie autrement que la First Lady fulgurante au début des années 60, voilà qui est difficile. Elle est restée ancrée dans notre mémoire commune comme une femme aussi charismatique qu'intelligente, incarnant l'élégance et l'esprit moderne de son époque. Mais la trajectoire de sa vie n'a évidemment pas commencé en 1961 avec l'élection de son mari John F. Kennedy, et elle est loin de s'être arrêtée en 1963 lors de l'assassinat de ce dernier. Plongeons-nous donc dans un portrait qui fait justice à l'histoire palpitante de Jackie Kennedy. Avant Jackie, il y avait Jacqueline Lee Bouvier.
Née en 1929, elle grandit dans une famille qui fait partie de l'élite américaine. Voilà, on peut se dire, ah, mais la petite Jackie, elle était tout de même assez privilégiée. Et ne nous voilons pas la face, ce privilège lui a ouvert beaucoup de portes. Cela lui a notamment donné accès à un milieu où l'éducation et la culture priment. Jacqueline manifeste très tôt un talent pour l'écriture. En effet, elle écrit depuis un jeune âge divers textes et essais. Certains d'entre eux réussissent même à être publiés dans des journaux locaux. La jeune Jacqueline est aussi passionnée par les arts. Elle étudie d'abord à l'université de George Washington, puis suit en 1949 des cours à la Sorbonne et à l'école du Louvre. Voulant s'ouvrir à des vocations de journalisme, elle devient photographe enquêteur pour le Washington Times Herald en 1952. Son travail consiste à parcourir Washington pour recueillir l'opinion d'inconnus sur des sujets polémiques. Son salaire hebdomadaire est de 40 dollars, une valeur purement symbolique pour la jeune Jacqueline. Cependant, ce travail lui permet de rencontrer des personnalités politiques importantes, comme par exemple Richard Nixon, rien que ça. Elle se construit durant cette période un réseau social qui lui sera fort utile à l'avenir. La même année, un ami journaliste invite Jackie à assister à un dîner. Il se trouve qu'un certain John Fitzgerald Kennedy se trouve de l'autre côté de la table. C'est ainsi qu'ils font connaissance, ils commencent dès lors à se fréquenter et se marient l'année suivante. Les deux tourtereaux ne perdent pas leur temps. Durant les années qui suivent, ils auront ensemble 4 enfants dont seulement 2 survivront. Caroline née en 1957 et John F. Kennedy Jr. née en 1960. D'ailleurs, c'est durant la même année que John F. Kennedy, pas Jr., se lance dans la course à la présidence. Jackie se trouve plongée sous le feu des projecteurs comme jamais auparavant. On l'apprécie très vite pour ses talents de communication et son esprit affûté. Son talent pour les langues s'avère fort utile dans les voyages internationaux où elle accompagne son mari, faisant office de traductrice en français et en espagnol. Mais bien au-delà de ses qualités personnelles, Jackie devient un symbole de l'Amérique glamour ainsi que de la femme instruite et engagée, et cela un peu malgré elle. C'est d'ailleurs à cette époque qu'elle commence à être surnommée Jackie, et non Jacqueline, un diminutif affectueux donné par son cercle d'amis, tandis que son mari, John Fitzgerald Kennedy, devient Jack pour les intimes. Jack et Jackie, un couple de surnoms que je trouve par ailleurs très classe, s'épaulent mutuellement durant la campagne présidentielle, et cela finit par porter ses fruits, puisque Kennedy est élu président en 1961. Fraîchement devenue première dame, Jackie est choquée par l'état négligé de la Maison Blanche. Comment peut-on laisser le symbole même de l'Amérique et du pouvoir exécutif dans un état aussi pitoyable ? Elle décide alors de se lancer dans de vastes rénovations pour transformer la Maison Blanche en le bâtiment iconique que nous connaissons toujours aujourd'hui. Son objectif, en faire un lieu dont les Américains seront fiers, une véritable première maison du pays, symbole du peuple tout entier. Tout en mettant en valeur l'histoire américaine à travers des objets et des œuvres d'art, elle y introduit aussi sa passion pour la culture française. Jackie imagine des jardins à la française, engage des décorateurs et chefs venant de France et inclut même dans le menu des réceptions officielles une cuisine inspirée de la gastronomie française. Notre First Lady n'était pas seulement une première dame, elle était aussi une icône de style. Dire qu'elle se faisait nettement remarquer lors de ses apparitions officielles serait un euphémisme. Il arrivait parfois qu'elle fasse même de l'ombre au charisme de Kennedy. À l'occasion de la visite officielle du couple présidentiel en France, un journaliste du Time Magazine l'a noté avec humour dans son article. Il y avait également son compagnon qui venait avec elle. On connaît tous l'image de Jackie Kennedy vêtue de son tailleur rose Chanel, taché de sang. Il s'agit du sang de son propre mari assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, lors d'une campagne électorale qui était censée être une simple formalité. Rien ne portait à croire à cette fin tragique. Et vous savez, ce qui est particulièrement marquant dans cette histoire, c'est que Jackie a refusé de changer de tenue, gardant ce tailleur tout au long du vol de retour vers Washington. Selon ses propres mots, elle voulait montrer au monde tout entier l'atrocité qu'on avait fait subir à Kennedy. Pour la petite anecdote, ce tailleur n'a d'ailleurs jamais été nettoyé depuis l'assassinat. Il est conservé avec soin aux archives nationales américaines et ne sera accessible au public avant, attention, préparez-vous, au moins l'année 2103. Oui, on ne peut que souhaiter bon courage à nos auditeurs pour y être encore au rendez-vous.
Le
chic, le glamour, l'intelligence incarnée. Non, je ne parle pas de Lavinia, mais bien de Jackie Kennedy. Le portrait de la semaine dans Cours d'honneur. À présent, on va se pencher eh bien sur la partie que je préfère de cette émission. Disons-le clairement, oui, le moment où on parle enfin de ce qui nous turlupine tous. Je parle bien sûr des sentiments amoureux.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau monde. Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me.
Elle aussi a besoin de poésie, d'aventure, d'amour. Notre chroniqueuse Sorbonne in Love ce soir, Maria Florencia. Vous allez rester à l'écoute pour entendre cette histoire d'amour de eh bien, nos collègues étudiants Amy et Albert, une histoire qui commence outre-mer, mais qui nous rejoint ici, entre les bancs de la Sorbonne. Maria Florencia, dis-nous en plus.
Et oui, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'amour qui commence sous le soleil californien, dans une salle des classes de l'Université de San Diego. Nous sommes en 2023 et c'est là que tout commence pour Amy et Albert, deux jeunes étudiants en marketing qui, sans le savoir, vont vivre une aventure extraordinaire grâce à un cours de français. En effet, pendant ce cours, ils s'approchent grâce à un projet en classe à faire ensemble. Albert remarque rapidement Amy qui l'impressionne avec son français. Fasciné par sa maîtrise de la langue, un jour, Albert, très sociable, s'élance et lui propose de sortir ensemble. Et Amy, charmée par son enthousiasme, accepte. Cette sortie devient alors le point de départ d'une histoire qui va les amener beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé. Puis il vient le grand défi, il découvre un programme d'échange avec la Sorbonne à Paris. Étudier dans la ville lumière, vivre cette aventure à deux, une chance unique qui les fait rêver. Ils s'inscrivent, sont acceptés et prennent l'avion pour une nouvelle vie. Au foie à Paris, tout change donc. Ils découvrent la culture française de l'intérieur, explorent les rues historiques, les cafés, les musées de la ville. Leur relation s'approfondit dans cette ambiance où tout est nouveau et fascinant. À travers cette expérience linguistique et culturelle, Amy et Albert apprennent à s'y connaître d'une manière plus profonde et leur amour se renforce. Aujourd'hui, ils sont au micro des Radio Sorbonne pour partager leur histoire avec nous. Une preuve que parfois, un simple cours des langues peut devenir le début d'une aventure à deux et continuer dans l'un des plus beaux endroits du monde, Paris.
Bonjour, je m'appelle Albert.
Je suis Amy, j'ai 21 ans.
Je viens des États-Unis, de Californie.
Je suis des cours au CESA en marketing, en master.
Je me trouve maintenant à Paris en étudiant marketing.
J'ai rencontré Albert dans mon cours de français aux États-Unis avant de venir ici.
On a travaillé ensemble et je me rappelle bien qu'il parlait très bien le français. À comparaison de tous nos camarades, ça m'a plu parce que je me dis, elle est très intelligente.
Il est hyper sociable, il m'a donné un compliment sur mon français. Après, on a commencé à parler en classe et il m'a demandé de sortir ensemble.
La Sorbonne a une grande influence sur notre relation.
On est plus proches en habitant à Paris. On envisage les mêmes obstacles tous les jours et on travaille ensemble tous les jours.
On avait l'option de faire les cours en anglais. Mais Amy et moi, on se dit non. Parce que c'est dehors de notre zone de confort. Pour moi, être à Paris, c'est ça. C'est de vraiment connaître ce qui est mis dans une situation nouvelle. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour réussir? Mon souvenir préféré de la Sorbonne, ensemble ici, c'est notre premier jour. On est arrivé, on a connu des personnes très gentilles et j'ai vu Amy, elle était en train d'essayer de parler, et moi aussi. Après ça, on se rencontrait, on a dit, bon, on l'a fait. Pour la première fois, on a parlé français avec des vrais français. Et c'était la première fois qu'on a réussi ensemble dans cette expérience-là.
Je me souviens le premier jour des cours à CELSA. C'était tellement difficile à comprendre les professeurs pour moi. J'avais très très peur. Mais quand je regardais à mon côté, Albert était toujours là.
Quelle belle histoire, écoutez. Écoutez ces témoignages sur cour d'honneur recueillis précieusement par Maria Florencia. Incroyable. Ce coup.
C'est trop chaud. Vraiment, j'avais envie de pleurer. J'ai dû me retenir. Mais ça a été très touchant.
Bon bah voilà, comme quoi on peut terminer une émission spéciale américaine sur la présidentielle sur une belle note d'espoir ce soir. Puisque c'est ainsi que se termine l'épisode 4, saison 4 de Cour d'honneur. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast, dans ta fac aussi. Merci donc à toute l'équipe. Merci Aurélie d'être venue ce soir, de nous avoir rejoints. Merci Lavinia aussi d'être là.
Avec plaisir.
Merci Alice.
Mais je t'en prie Thomas.
Swan, merci d'être venu.
Un immense plaisir.
Incroyable Maria Florencia.
Ça a été un plaisir de pleurer avec vous ce soir.
Et Shirin, les bons plans, les bonnes
également,
adresses.
Également, c'est un plaisir, merci.
À la semaine prochaine. Dans deux semaines, bien sûr, on se retrouve une semaine sur deux, un épisode toutes les deux semaines. CDH en mode bimensuel. Merci bien sûr au service culturel pour son soutien et Radio Campus Paris pour le partenariat. D'ici là, restez curieux, soyez fous et n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pèque, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.